Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Romain Fallet. Romain, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas?
Je suis lead développeur dans une startup qui fait l'automatisation de la relation client. Avant ça, j'ai été pendant six ans freelance en tant que développeur. Et je réfléchis beaucoup en fait à l'impact de notre métier sur un peu la société, sur les usages quotidiens de tout à chacun. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se dessine, notamment vis-à-vis de la numérisation de la société et vis-à-vis de l'impact en fait qu'ont les éditeurs de logiciels et puis les développeurs par extension sur la société.
Moi, c'est une réflexion que j'ai voulu mener, que j'ai eu envie de mener, notamment dans la série Développeurs en 2039. Donc, cher auditeur, si tu ne l'as pas entendu, je t'invite à aller découvrir cette série. C'est une série de 20 épisodes où justement, j'ai voulu projeter à quoi pourrait ressembler notre job en 2039. Et c'est aussi une question que je me pose beaucoup parce que j'ai l'impression, en gros, la question, c'est quel est l'impact de notre métier, et du coup, j'ai le sentiment que l'impact est de plus en plus grand et devient vraiment énorme. Et avec de grands pouvoirs, on m'a toujours expliqué, viennent de grandes responsabilités. Et je ne suis pas sûr déjà que la société civile soit consciente de ces enjeux-là. Et je ne suis pas sûr que les développeurs soient eux-mêmes conscients de ces enjeux-là. Tu vois. Et je trouve ça intéressant de se questionner parce que sinon, un jour, on risque de faire des choses qu'on regrettera. Moi, j'ai été fasciné derrière nos écrans de fumée, le reportage qui investigue un petit peu sur l'impact des réseaux sociaux dans la vie des gens et des Américains en particulier, des gens qui avaient été les inventeurs des réseaux sociaux presque se confesser, presque demander pardon de ce qu'ils avaient fait quoi. Et je sais pas comment tu réfléchis le truc toi.
Moi je vois déjà qu'il y a la première grosse disparité que je vois, c'est qu'en fait les utilisateurs des logiciels en fait ils ont un peu aucun moyen. Tu vois, si on leur dit, bah voilà, demain, on fait une mise à jour qui va rendre le logiciel deux fois plus lent, bah, l'utilisateur, il peut juste soit s'y conformer, soit arrêter de l'utiliser et c'est tout, quoi. Donc, sur des logiciels où tu as des options, potentiellement la possibilité de changer, c'est encore l'utilisateur peut changer, mais c'est pas le cas forcément pour tout. Le changement est pas forcément facile. Enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que il y a vraiment un peu une situation de force qui est vraiment disparate, quoi.
Ouais, tu me parlais d'éditeurs que tu trouvais quelque part trop puissants et parfois certains d'entre eux prennent des décisions qui impactent des millions d'utilisateurs ou même des milliers d'utilisateurs. Moi, je le réfléchis à différents niveaux. Je le réfléchis à un niveau purement économique. Si finalement, tu fais n'importe quoi avec ta base d'utilisateurs, bah, de toute façon, un jour, ils se casseront, ils partiront. Notamment, et ça, c'est le sens de l'histoire, notamment avec le RGPD qui rend, en théorie, plus simple les migrations en précisant que tes données t'appartiennent. Maintenant, quand ça te rentre dans la sphère politique, j'ai tendance à réfléchir les choses d'une manière assez différente.
Tu vois, juste pour prendre l'exemple de Windows, tu vois, quand ils ont lancé Windows 8, ils ont changé la façon de fonctionner de toute la planète. Ils ont changé la relation avec un ordinateur de bureau de toute la planète en un coup. Donc certes, ça n'a pas bien plu, ils ont fait machine arrière, mais en attendant, ça a dérangé et ça a modifié le quotidien de milliers, voire millions de personnes qui, à un moment donné, n'avaient pas d'autre choix que de rétrograder ou de changer de machine, tout simplement. Donc, je trouve que c'est vraiment un impact qui est colossal, en fait, sur la vie de toute une société, juste sur une décision unilatérale d'un éditeur de logiciel.
Et toi, qu'est-ce que tu voudrais ? C'est quoi, dans le monde idéal que tu imagines, qu'est-ce qu'il y aurait de différent ?
Bah, tu vois, On a, tu vois, des ordres des médecins, des ordres des architectes, des ordres comme ça pour un peu, tu vois, réglementer ou en tout cas donner des chartes de conduite de certaines professions. Pourquoi pas un ordre des éditeurs de logiciels, des développeurs ou je sais pas. Je me dis qu'il y a vraiment tout à faire. Tu parlais du RGPD tout à l'heure. Au final, le RGPD se voulait être une réglementation qui était là pour les utilisateurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est emmerdé avec les pop-up incessantes qu'il faut fermer à l'ouverture de chaque site? Bah, ce n'est pas les éditeurs, c'est les utilisateurs.
Voire même pire, parce que du coup, comme les gens ne les regardent plus, ces pop-up, les éditeurs peuvent facilement mettre un peu ce qu'ils veulent derrière et les gens acceptent encore plus aujourd'hui n'importe quoi en fait.
C'est ça. En fait, de base, de toute façon, 80%, 90% des pop-ups sont illégales ou on te précoche des choses comme l'intérêt légitime pour te faire accepter des choses alors que tu n'as juste pas le droit de le faire ou l'intérêt légitime n'est pas utilisable dans ce contexte. Enfin, mais voilà, encore une fois, l'utilisateur, il peut juste cliquer sur accepter ou il y a certaines pop-ups où tu peux juste pas refuser facilement, ou alors faut décocher 30 trucs manuellement, ou des fois juste refuser, ça ne marche juste pas. Genre, tu cliques sur refuser, et puis t'as un loader qui tourne, et ok. Donc, c'est enfin voilà, je trouve que c'est vraiment c'est le RGPD, ça partait d'une bonne intention. Je trouve que ça fait au final plus de mal que de bien, même si je suis convaincu qu'il y a de très bonnes choses, tu vois, sur le principe, sur le texte. Sur le texte, je trouve qu'il y a de très bonnes choses, mais l'application qui en est faite, je trouve qu'elle est pas encore optimale.
Et alors cet ordre des développeurs, parce que moi c'est quelque chose que je pense possible et que je pense qui peut vraiment arriver un jour, parce que justement il y a une responsabilité, il y a une responsabilité qui est engagée dans ce qu'on fait, je pense. En tout cas pour l'instant c'est pas une responsabilité légale, mais c'est une responsabilité éthique. Et dans 2039 justement, je raconte cette histoire d'un développeur qui à un moment donné à qui on demande de faire quelque chose. Qu'il estime lui pas éthique. Et finalement, aujourd'hui, un développeur d'une entreprise qui ferait quelque chose même potentiellement d'illégal, du moment qu'il le fait sur ordre de son supérieur hiérarchique, ben, il y a un transfert de responsabilité qui s'effectue vis-à-vis du supérieur hiérarchique, justement. Il peut toujours dire, ah oui, mais on me l'a demandé, c'était dans le cadre du contrat, et légalement, c'est comme ça. Mais il n'y a aucune forme de... Du coup, il n'y a aucune forme de contrainte en fait. Et du coup, on en arrive à des situations où on peut imaginer des développeurs qui vont faire des choses qui peuvent vraiment poser problème en fait. Comme trafiquer une machine de vote, comme trafiquer un outil de détection des... Enfin, le truc Volkswagen, quoi. Trafiquer les... Alors, je ne sais pas si c'est des développeurs qui ont trafiqué le truc ou d'autres ingés, mais on peut en arriver à ce genre de situation sans que les personnes soient elles-mêmes directement impliquées en fait.
Et puis là, tu parles de, tu vois, d'action consciente, mais il y a aussi une responsabilité sur ce qu'on fait sans le vouloir. Enfin, tu vois, quand tu as une équipe qui produit un logiciel tout pourri parce qu'elles n'ont pas les bonnes pratiques, parce que voilà, elles sont pas formées ou parce que voilà, il y a des problèmes organisationnels. Bah, le résultat, c'est un logiciel tout pourri qui a probablement des problèmes, qui marche potentiellement pas bien, qui va avoir un impact. Et dans quelle mesure il n'y a pas aussi une responsabilité là-dessus, tu vois?
Oui, quelque part, mon expert comptable, il a un devoir, je pense, de résultat, pas juste de moyens. Il a un devoir de... En tout cas, dans sa manière, dans la diligence qu'il met à faire son métier, je pense qu'il a un devoir de résultat. Et c'est vrai qu'on retrouve pas ça chez nous. Ouais. On retrouve pas ça chez nous. Mais jusqu'à maintenant, je t'avoue que moi, je le voyais plutôt dans une approche darwinienne économique, en disant les développeurs qui contribuent à ce genre de projet, quelque part s'enterrent un petit peu eux-mêmes, et les entreprises qui sont derrière sont condamnées à péricliter, parce qu'à un moment donné, un concurrent arrivera, n'aura pas tout le legacy qui l'empêchera d'innover et les mangera, ou les mettra hors business, tout simplement. C'est une approche assez économique et darwinienne, mais je me rends compte qu'il y a des sujets sur lesquels c'est l'approche économique ne peut pas fonctionner, en fait. Et je vois notamment tous les services de l'État qui se numérisent vachement. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que Bon, pour l'anecdote, je suis en train de faire refaire ma carte grise d'une de mes bagnoles que j'ai paumée. Et j'ai tout pu faire en ligne. Donc ça, c'est assez gratifiant et satisfaisant. Mais c'est vrai que l'expérience utilisateur est quand même vraiment à chier. Mais en dehors de ça, ouais, quelle est la responsabilité? Tu vois, je veux dire, je sais pas si je suis clair en fait. Le fait qu'on commence vraiment à toucher à des sujets super sensibles, moi, c'est des choses qui me font peur. Tu vois, le cas le plus ultime de ça, ça a été le bannissement des réseaux sociaux de l'ancien président américain, de Trump. Tu vois, moi, j'ai été choqué par cette décision. Non pas sur le fond, parce que Trump, il dit quand même beaucoup de conneries dans le lot. Et j'ai même pas envie de rentrer dans ce débat de est-ce que ce mec mérite ou pas d'être présent sur les réseaux sociaux. Mais le fait qu'une société de droit privé puisse décider de couper l'accès à un média aussi important et influent et décisif dans les élections et dans la vie politique, ça m'interpelle vachement, moi.
Ouais, ben, on commence à avoir l'idée qu'aujourd'hui les grosses entreprises du numérique deviennent aussi puissantes, voire plus puissantes que des États. Mais juste pour revenir, pour te donner un exemple aussi, de parler des services publics tout à l'heure, moi j'ai ma femme du coup qui a accouché il y a 8 mois. Avant, elle était indépendante. Au 1er janvier 2020, tous les indépendants sont passés sur la caisse du régime général. Donc on est tous à la même sécurité sociale que les salariés, que tout le monde. Et ce qui s'est passé,
Ouais,
c'est
on n'a pas les
que...
mêmes droits, mais c'est eux maintenant qui régissent c'est eux qui régissent les contrats.
Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le logiciel qui gérait la Caisse des indépendants avant a pas réussi à suivre. Et en fait, elle a eu son congé maternité qu'elle aurait dû avoir au 7e mois, quand notre fils était né, tu vois. Donc... Nous, on avait des réserves, donc on a réussi à survivre, entre guillemets. Mais ceux qui n'ont pas ces réserves, quel est l'impact? C'était en plus, du coup, un bureau qu'on ne pouvait pas joindre, parce qu'en fait, derrière, ils avaient gardé l'ancien logiciel qui était tenu par quelques agents et qu'on ne pouvait pas contacter directement, que la Sécu eux-mêmes ne pouvaient contacter que par mail. Et en fait, ces mêmes agents-là, eux, c'est juste que le logiciel ne fonctionnait pas et ils étaient obligés de faire des trucs où ils faisaient les versements, en fait, sans avoir de validation. Ils faisaient une avance de versement, en fait, donc avec tous les risques et leur responsabilité personnelle qu'ils mettaient en place sur tous les dossiers. Enfin, tu vois, je trouve qu'il y a un impact sur les agents, en fait, qui, eux, ont dans les mains le logiciel qui ne marche pas, ont des responsabilités vis-à-vis des assurés, et puis les assurés qui, juste, ont pas leurs droits, quoi.
Ouais, dans le même truc, tu as ce logiciel là, d'affectation au Parcoursup. La première année de mise en œuvre qui avait été une
Catastrophique,
catastrophe
ouais.
monumentale. Et là, je me suis dit, merde. La première réflexion, ça a été de dire, je pense qu'il faudrait brûler les développeurs qui ont produit cette bouse immonde. Et après, je me suis dit, non, d'abord, c'est pas bien de brûler les gens. Et ensuite, c'est peut-être pas leur faute, en fait. Ils sont peut-être dans un contexte qui est vraiment pas propice. Mais là, voilà, j'en viens à me poser. Ça, pour moi, ça pose vraiment la question de la responsabilité des gens, quoi. Merde, il y a des milliers de familles qui étaient paumées. Moi, je peux le dire, en tant que parent, savoir comment ton enfant va poursuivre ses études, c'est un sujet hyper stressant. Ils nous ont encore foutu en l'air, là, tous les programmes, il faut encore se reformer et compagnie. C'est hyper stressant. D'être responsable de l'avenir de ton gamin, alors co-responsable, il le pilote avec toi aussi, mais c'est hyper stressant. Et là, je me suis imaginé, moi, maintenant que je vois mon fils aller bientôt à la fac, je me suis imaginé être parent qui est face à Parcoursup, à pas savoir où va ton gamin, où on te dit que tu es 750e sur une liste d'attente de 300 personnes. Je crois que je pète les plombs.
Très, très clairement, et tu vois, c'est en ça que je vois que, ok, il y a une notion de responsabilité, à un moment donné, qui la prend, enfin, tu vois, cette responsabilité, qu'est-ce qu'on fait quand ça marche pas, tu vois, comment on essaie de régir ça, et en même temps, tu vois, il y a un peu le cas extrême où on peut rapidement, tu vois, toucher aux libertés d'expression, aux libertés, tu vois, de la neutralité du web, etc., parce que dès qu'on commence à régir. Essayer de réglementer et légiférer le logiciel, on arrive souvent, tu vois, dans des questions comme ça, quoi.
C'est clair. Je vois que la boîte de temps, on l'a bien mangée. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir te suivre où?
Eh ben, ils peuvent me suivre sur Twitter, @RomainFallet.
Merci Romain d'être venu aujourd'hui.
Merci à toi.
Quant à toi, cher auditeur, si tu as envie de réfléchir et qu'on travaille ensemble sur la création de l'ordre de développeurs, n'hésite pas à m'envoyer un petit email, benoît@artisandeveloppeur.fr. Je suis curieux de voir ce que tu en penses. Et puis, si tu as envie d'apprendre à écrire du code durable, si tu as envie de devenir vraiment professionnel, de prendre la responsabilité du code que tu produis et d'être rassuré sur la qualité de ce que tu fais, tu viens dans la maison des compagnons, maison.artisandeveloppeur.fr. Il y a un cursus, le cursus artisan développeur, qui est là pour ça, pour t'aider à apprendre à écrire du code durable. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao.